Bonjour à toutes et à tous, il est 17h, ça y est, c'est parti, nous sommes le mercredi 24 septembre 2025. Vous avez reconnu notre nouveau générique, ça commence à faire maintenant. Nous nous retrouvons pour une nouvelle saison et 1h30 de partage de livres. 1h30 jusqu'à 18h30 à écouter au fil des pages sur Radio Libertaire, la radio sans Dieu, sans maître et sans publicité. Aujourd'hui, Frédéric, Agnès, Marie, Dominique, Francis et une petite nouvelle, Elisabeth, vont tenir l'antenne. Fred, des annonces.
Ah oui, bien sûr, une annonce particulièrement. Donc, dimanche qui vient, c'est-à-dire le 28 septembre à 16h, où ça? À la librairie Publico. Pourquoi? Eh bien, une causerie populaire et libertaire avec une thématique, la perte de nos libertés. C'est une entrée libre, venez participer, venez discuter. Voilà, c'est tout ce que j'ai pour cette semaine.
Alors on poursuit sur les annonces. Samedi après-midi, place de la Commune de Paris dans le 13e arrondissement de quartier de la Butte aux Cailles. Il y a la fête de la Commune. Vous y retrouverez des stands, de la musique, des animations, des dédicaces de bouquins et nous serons quelques-uns à être présents en outre. Toujours le samedi 27 septembre et le dimanche 28, il y a une fête du livre. Alors le samedi, c'est de 10h à 18h, le dimanche de 10h à 16h, et là, il y a quantité de livres neufs et d'occasion. C'est à 8 impasse Crozatier dans le 12e arrondissement. Ce sont nos amis des éditions Noir et Rouge qui organisent cette fête du livre. C'est au métro Faidherbe Chaligny sur la ligne 8. En plus de nous écouter, n'hésitez pas à nous écrire. Notre adresse, librairie Publico, 145 rue Amelot, Paris 11e. Et puis sur le blog du groupe Commune de Paris. Il suffit de cliquer sur contact. Et puis vous nous laissez un petit message en disant tiens, il y a un bouquin qui est sympa, faudra en parler, etc. Bon, voilà. Et au programme de cette émission, pour une fois, nous n'avons pas d'invité en tant que tel, mais nous avons une grande diversité de thèmes et de livres. Première partie, tout de même, comme d'habitude, pour alimenter le débat. Alors, il ne vous a pas échappé que, les prisons françaises sont bourrées à craquer et que les droits des détenus sont, on va dire, aléatoirement respectés. Aussi, les éditions de La Découverte ont publié le guide du prisonnier, qui est une somme très précise pour tout expliquer, les droits, et montrer qu'il faut faire respecter et comment faire respecter ces droits, ne serait-ce que dans une société coercitive comme la nôtre. Nous allons laisser la parole à Dominique pour nous parler de ce livre et nous écouterons dans la foulée une célèbre chanson de John Baez dans un pénitencier. Frédéric, on y va ? Alors Dominique, nous allons parler aujourd'hui du guide du prisonnier. Je crois qu'il a été édité par l'Observatoire international des prisons aux éditions de La Découverte. C'est sa 5e édition, diffusion 2025. Alors d'abord, pourquoi ce guide ?
Alors, il ne se passe pas une journée sans que nous parlions des prisons. Le principal sujet, c'est bien sûr la surpopulation carcérale, avec toutes ses conséquences directes. Conditions de détention indignes, taux de récidive important, impossibilité de contrôler les téléphones portables, suicides, bagarres entre détenus, difficultés d'accès aux activités. D'autres sujets occupent les prisons, la radicalisation des détenus, la montée des narcotrafics, les évasions, la mort de surveillants à la suite de l'attaque du fourgon pénitentiaire, les activités jugées provocantes comme l'histoire des kartings à Fred ou les massages aux détenus. Donc, de nouvelles conditions de vote des détenus ont été déposées dans une proposition de loi, mais qui n'est pas passée encore. Enfin, le déplacement des narcotrafiquants dans la prison de Vendeuil a occupé les médias. Donc, Quelle que soit la gravité des infractions commises, les détenus possèdent des droits qui doivent être respectés. C'est pourquoi ce guide leur est fort utile, ainsi qu'aux mondes judiciaire et pénitentiaire.
Et je dirais à tous les militants qui défendent les droits de l'homme.
Oui.
Bon. Alors, qui l'a rédigé, ce guide ?
Alors, c'est l'Observatoire international des prisons, section française, parfois appelée OIP section française. C'est une association 1901. Française fondée en 1995. Elle agit pour le respect des droits de l'homme en prison et milite pour un moindre recours à l'incarcération et à la dépénalisation de certains délits. Elle dispose d'un statut consultatif auprès des Nations Unies. Entre 2014 et 2019, en dépit de l'accroissement de la surpopulation carcérale, l'OIP a perdu 66% de ses subventions publiques, ce qui pourrait conduire à sa disparition. Chaque année, l'OIP reçoit 4500 sollicitations de détenus, de leurs proches, d'intervenants en détention ou de professionnels du milieu carcéral. Ces témoignages lui permettent d'informer l'opinion publique sur la situation des personnes détenues à travers son rapport sur les conditions de détention, sa revue « Dedans, dehors » et son blog, qui est diffusé aussi par Mediapart, ou sa présence sur les réseaux sociaux et la publication de guides du prisonnier.
Alors, quelques actions de l'OIP ?
Alors, ils défendre un recours limité à l'incarcération en plaidant pour la révision de la durée des peines, des pénalisations, promotion d'alternatives à l'incarcération, contribuer au débat public par un travail d'analyse, sensibilisation à travers les revues et intervention. Ils interviennent aussi en milieu scolaire, dans les collèges et lycées d'Île-de-France. Donc, ils font des travaux vraiment d'enquête approfondie avec des correspondants, intramuros, aussi dans les prisons. L'OIP tient une permanence informative et juridique. Elle publie des fiches thématiques traitant de nombreux sujets et elle est présente sur le terrain contentieux où elle mène des actions en justice contre l'administration pénitentiaire devant les juridictions administratives.
Elle gagne des procès ?
Oui, ils gagnent. Ils s'appuient sur des avocats spécialistes et ils gagnent notamment sur les conditions de détention dans certaines prisons.
Alors son président...
Il y a eu des avocats célèbres, il y a eu Thierry Lévy, il y a eu un Basque, Gabriel Muesca, Florence Abonas, une journaliste, Antoine Lazarus, qui anime actuellement un groupe multiprofessionnel des prisons, et depuis 2022, c'est Mathieu Quinquis, avocat au barreau de Paris.
Alors, cette cinquième édition, là, c'est... Car la première date de 96, mais aujourd'hui, c'est... Qu'est-ce qu'on va trouver là-dedans ?
Alors, cet ouvrage décrit le droit applicable en détention de manière pédagogique et accessible et le confronte à sa mise en œuvre au quotidien. Donc il y a des témoignages, des analyses, des articles de presse. Donc il y a 1000 questions-réponses classées par thématique et il accompagne l'intégralité du parcours d'une personne détenue du premier au dernier jour de prison, en passant par toutes les conditions, accès aux soins, au courrier, à la bibliothèque. Donc cette nouvelle édition a été intégralement mise à jour en prenant en compte la création du code pénitentiaire, puisqu'avant il n'y avait pas de code pénitentiaire.
Ah oui.
C'était le code de procédure pénale qui a donc grossi. Et donc on en a extrait un nouveau code. Chaque rubrique renvoie à un article précis du code. Les textes internationaux sont très présents, comme les règles spécifiques de l'ONU, comme les règles Mandela, qui a proposé justement l'accès aux activités culturelles. Célèbre détenu, Mandela, et toutes les règles du Conseil de l'Europe. Le guide s'est enrichi de nouveaux sujets, comme les aménagements de peine, l'évaluation et la prise en charge de la radicalisation, les droits des personnes étrangères détenues, les transgenres. Le guide est mis à la disposition de l'ensemble des bibliothèques pénitentiaires et il est envoyé gratuitement à toutes les personnes détenues qui en font la demande. Il est très concret, permet aux détenus d'envoyer leurs demandes motivées à l'administration pénitentiaire. Il est aussi utilisé par les syndicats de surveillants, le monde judiciaire, les avocats, les journalistes.
Alors, je crois que tu as une actualité à ce sujet.
Oui, alors, en fait, il y a plein de livres qui sortent sur les prisons. J'en ai plusieurs. Alors, en décembre, chez l'Harmattan, un ouvrage auquel j'ai participé, ce livre s'intitule « Favoriser la réinsertion des détenus par les apprentissages ». Il a été élaboré sous la direction du Conseil mondial pour les apprentissages tout au long de la vie, qui est une ONG représentée au sein de l'UNESCO et du Conseil de l'Europe. Donc cet ouvrage milite pour le développement de l'apprentissage au sein des prisons. Il faut que les détenus ressortent avec une formation ou un métier. Certains n'en ont aucune formation. L'ouvrage propose de changer le titre des centres de détention en les appelant aussi centres de détention et d'insertion.
Bon, bah alors c'est, oui. C'est vraiment... Mais alors je crois qu'on en a... Il y en a un autre.
Alors, il y en a trois autres.
Alors, trois autres, vas-y.
Alors, il y a dans la liste du Goncourt de cette année, Guillaume Poix, Perpétuité, chez Vertical, qui traite de la prison vue par un surveillant.
Donc ça bon, peut être... Alors, attention, parce que
oui, mais...
Radio Liberté, on n'est pas du côté...
Oui, mais on peut le critiquer, bon. Justement.
Voilà, ok. Oui. Et puis...
Alors, Antoine Garapon, pour ah, oui. une autre justice, la voie restaurative au PUF 2025, mm-hmm. qui explique ce qu'est la justice restaurative qui fonctionne assez bien pour certains délits.
D'accord, très bien.
Voilà, et deux autres, en fait ça fait quatre, Collision, qui est dans la liste du Goncourt, qui raconte l'histoire de la mère de l'auteur qui a été renversée par un jeune en motorodéo. Mais contrairement, justement, il veut démonter le discours de Zemmour sur les petits délinquants. Il essaye de comprendre comment ce délinquant en est arrivé là. Et donc, il surmonte son idée de vengeance par l'idée de justice. Et Natacha Apana qui raconte les violences faites aux femmes et qui se pose la question, est-ce qu'il faut que les hommes aillent en prison ou est-ce qu'on peut trouver une autre solution?
Bon. Voilà. Alors donc, différents ouvrages, on les présentera pas tous dans le cadre de l'émission. Prochain livre dans le cadre de l'émission.
Alors on change d'univers, Mésopotamia d'Olivier Guèze chez Grasset 2025.
Très bien, merci. Quand même. Alimenter le débat, c'est aussi réfléchir sur la place des religions. Et nos amis de la libre pensée sont évidemment au premier rang dans ce domaine. Et j'ai beaucoup apprécié leur livre portant sur les évangéliques. Ah, en plus, c'est C'est un peu d'actualité avec la situation aux États-Unis. Alors, la Fédération nationale de la libre pensée est une association de loi 1901 qui fédère des associations locales se réclamant de la libre pensée en France. Elle promeut le libre examen, la liberté de conscience et évidemment la laïcité, et elle se réfère aux principes rationnels et scientifiques en s'affranchissant des dogmes. C'est une des organisations historiques proches du mouvement ouvrier, de l'anarchisme, du pacifisme. Donc on a beaucoup d'amis dans cette même association et nous la croisons régulièrement par exemple à la montée au mur des fédérés fin mai de chaque année. Et parmi ses publications, nous connaissons évidemment son mensuel La Raison, mais un de ses militants très proche de nos idées m'a fait découvrir leur collection Arguments de la libre pensée et particulièrement le numéro 27 publié en décembre 2024 ou Frimaire 2024. Vous voyez, on est vraiment dans un système républicain, des valeurs républicaines. Et ce numéro 27 est consacré aux évangéliques. Cette sensibilité religieuse est très influente aux États-Unis ça montre qu'on doit s'y intéresser au-delà des caricatures, même si ce sinistre Trump participe à la caricature de cette sensibilité. Il faut savoir comprendre comment fonctionnent ces gens pour mieux les dénoncer quand il le faut. Et cette collection répond à cette attente. Et le but est bien de donner du grain à moudre à la réflexion militante ou simplement citoyenne. Le ton est clair, pédagogique. Il contribue à l'éducation populaire, comme le souligne Christian Eschen, vice-président de la Libre Pensée. Et on retrouve dans ce numéro, qui est en fait une brochure assez conséquente, des historiens de confession protestante aux approches nuancées, comme Jean Bobéro, Yves Ruff ou Jérémy Corbeau. Christian Eschen insiste sur le dialogue et l'origine commune de la libre pensée et du protestantisme, c'est-à-dire cette volonté de comprendre et de se former soi-même une opinion. Ah ça, c'est intéressant. Cette approche permet de distinguer les protestants de la sensibilité évangélique, qui est l'un des mouvements spirituels qui progresse le plus dans le monde aujourd'hui. Ainsi, en France, 32% de la population se déclare catholique, 9% musulmane, 3% protestants, et il y a 745 000 évangéliques. Donc c'est quand même des gens qui existent dans notre pays. Et cette brochure copieuse reprend l'historique du protestantisme, Luther, Calvin, les nuances doctrinales, les courants et institutions, et le lecteur constatera la grande nébuleuse, les groupes, sans oublier les églises, autour d'un pasteur charismatique. Comment sont recrutés les fidèles ? Quelle méthode de prosélytisme ? Vous en voyez parfois dans la rue, ne pas confondre avec les témoins de Jéhovah. Souvent, ce sont des personnes un peu perdues, en quête de lien social, d'esprit communautaire, je parle bien des évangéliques, de ceux qui vont aller dans ces courants. Et on le voit dans les recrutements de personnes du tiers-monde aussi, beaucoup. La participation aux cérémonies, les chants, les repas, crée une communauté qui peut connaître d'ailleurs une dérive sectaire, notamment dans le suivi aveugle des préceptes d'un pasteur et la surveillance de chacun par les autres membres de la communauté. C'est là où ça risque sacrément de dériver. Bon, en fait, c'est très simple de rejoindre ces communautés. Je cite « Venez comme vous êtes, le fonctionnement comme le message ». Ma foi, tout cela est très accessible. Ils sont globalement en accord avec la laïcité, ce qui leur donne la possibilité d'exister en France. Et sur le plan politique, ils alternent de la passivité conformiste à une éthique de la responsabilité se traduisant parfois par un engagement politique et économique. Et rejetant globalement l'extrême droite en France, ils auraient voté Emmanuel Macron. Aux États-Unis, ils se tournent, au contraire, vers le nationalisme chrétien, la religion du dollar et la réussite par le travail. Trump les a attiré manifestement. Et la dernière partie de l'ouvrage contient une analyse de ce mouvement par un certain Nick Fish, président de l'American Atheist, évoquant le sectarisme, notamment à l'égard de LGBTQ, qu'ils exportent en Afrique, en Hongrie, et puis le mystère aussi des fusillades de masse. Vous lirez ces passages, c'est assez intéressant. Et je dois noter aussi la précision des références, le nombre de sites mentionnés, c'est-à-dire que vous pouvez aller chercher les informations en français et parfois en anglais, etc. Et en distinguant les protestants des évangéliques, en retraçant l'histoire, en analysant la complexité de ces courants, la libre pensée donne matière à réflexion, que chacun se fasse son opinion. Je rappelle les références de cette brochure, Les évangéliques, une autre facette du protestantisme, Arguments de la libre pensée, c'est le numéro 27, décembre 2024. Donc là, un livre, enfin une brochure qui donne à réflexion. Et on n'est pas dans de la caricature, dans l'analyse de cette sensibilité. Et puis nous arrivons à une artiste qui intervenait souvent sur Radio Libertaire, dont le chant est un cri, comme le relève Elisabeth, qui va dans un instant nous présenter une biographie de cette artiste, c'est Colette Magny. Eh oui, vous avez tous entendu parler et vous avez tous entendu Colette Magny. Une biographie est publiée par les Fondeurs de Briques, mais avant cela, écoutons un chant que Colette Magny avait interprété au moment de la guerre du Vietnam, et ça s'appelle Vietnam 67. Frédéric.
Vietnam 67. Vietnam 67. Vietnam 67. Vietnam 67. Je ne m'interroge plus sur le sexe des anges. Vietnam 67, Van Tien Dung m'a dit, viens, donne-moi la main, tu verras, ici c'est la guerre des vélos. Alors camarade, ton vélo est renforcé. Alors camarade, avec 300 kilos de vivres et munitions, tu vas pouvoir nous ravitailler. Mes camarades, tous les ponts sont coupés. Oui, mes camarades, la nuit dernière, on les a tous remplacés. Nous ne nous laisserons pas intimider. Il y a bien longtemps, pour l'air sage du matin, il y a bien longtemps, pour les repiquages du soir, nous étions deux dans la rizière. Mais une nuit, mon mari fut emmené. 400 000 hommes et leurs bombardiers. Avec 400 000 hommes et leurs casse toxiques. La défaite militaire suivra l'échec politique. Nos paysans dressaient les abeilles sauvages au combat. Nous sommes toujours là. Alors maintenant, Mara, les accords de Genève. Alors maintenant, Mara, vous n'avez donc rien à en faire. Ho Chi Minh vous l'a dit. Nous ne nous laisserons pas intimider. Vietnam 67, longue vie au peuple vietnamien.
Elisabeth.
Bonjour à tous et à toutes. Je vais commencer par une citation. En fait, c'est Jean-Paul Sartre qui disait « Les messages qu'on n'entend pas sont souvent les plus importants ». Eh bien, cette phrase pourrait presque résumer la vie et l'œuvre d'une artiste incroyable, mais trop souvent oubliée, Colette Magny. C'est à travers un livre écrit par sa nièce, Perrine Magny-Lecoy, que nous allons redécouvrir son parcours. Cette biographie s'intitule « Colette Bany, remettre le western à l'endroit ». Elle est accompagnée d'un CD inédit d'un concert de 1988 et elle vient de paraître aux éditions Les Fondeurs de Briques.
Alors, quand même, pourquoi ce titre un peu mystérieux, remettre le western à l'endroit ?
Parce qu'en fait, toute la vie de Colette Bany a consisté à renverser les limites et surtout à casser les codes. Et c'est cela qu'on va découvrir dans ce livre. On a souvent voulu enfermer Colette Bany dans la chanson « Mélocotone », un petit tube léger qui fut presque un accident pour elle dans son parcours. Mais très vite, elle a compris que ce succès était une cage dorée. Elle a choisi la liberté, un chemin bien plus exigeant. Avec sa voix extraordinaire, elle s'est mise à chanter Rimbaud, Neruda, Victor Hugo, à transformer le blues en arme de combat contre la guerre du Vietnam, le racisme ou l'oppression. Elle hurlait les révoltes des autres, mais aussi ses propres blessures. Une voix puissante pour des messages que l'on s'est empressé d'étouffer.
Mais l'oubli de Colette Bany n'est-il pas le résultat logique de positions extrêmes qu'elle aurait eues ?
Oui, ces positions l'ont effectivement marginalisée, elle dérangeait. Et d'ailleurs, Perrine Magny-Lecoy le montre bien. Elle nous dit qu'elle a été censurée, boycottée, alors que son cas est unique. Et il y a une distinction fondamentale. Ce n'est pas son art qu'on a rejeté. Il était brillant, innovateur, mais ses idées. Elle était trop libre pour rentrer dans des cases.
Et en quoi son cas se distingue de celui d'autres grands oubliés de la chanson française ?
Eh bien, elle était plus qu'une chanteuse. C'était une artiste totale, intellectuelle et autodidacte. Là où d'autres ont disparu par manque de succès, elle, on l'a écartée parce qu'elle dérangeait trop. On peut dire justement que le grand mérite du livre de Perrine Magny-Lecoy est de nous faire enfin tendre l'oreille. Il s'agit d'une biographie documentée, riche en archives et en photographies. Mais c'est surtout aussi une quête intime menée à travers le regard de sa nièce Perrine.
Et ce livre, qu'apporte-t-il en plus par rapport aux autres ouvrages qui lui sont consacrés ?
En fait, il ne s'agit plus d'une biographie artistique ou militante, mais d'une biographie psychologique et émotionnelle qui ose faire le lien entre l'intime et le politique, le personnel et le créatif. C'est un travail nécessaire qui redonne à Colette Bany une profondeur humaine. Mmh. Le livre souligne d'ailleurs cette singularité et une différence avec les autres ouvrages qui est essentielle. Il nous montre la femme derrière la voix.
Et donc, que va-t-on y découvrir ?
Eh bien, on y découvre un être complexe et vulnérable, marqué par une enfance difficile. Le livre nous permet de comprendre pourquoi l'engagement fut pour elle une question de survie. L'exemple de Mélocotone est frappant. Un succès qu'elle a rejeté avant de se réconcilier beaucoup plus tard, vers la fin de sa vie, avec cette chanson.
Alors bon, on va pas passer Mélocotone, mais justement, quelle place a eu cette chanson dans sa vie ?
En fait, c'est une place assez paradoxale. C'était un succès qui est devenu un fardeau, et puis finalement, elle se l'est réapproprié. Et l'analyse de l'autrice est très éclairante. Avec le recul, on comprend que cette chanson qui parle d'enfants invisibles, dans cette chanson, pardon, elle glissait déjà ses propres blessures, comme le viol qu'elle a subi à 8 ans et demi, un drame qu'elle n'a révélé que bien plus tard.
Et avec quel artiste de son époque pourrait-on établir un parallèle ?
On peut citer Francesca Solville ou Catherine Robero, la passionnariat rouge. Mais la comparaison a ses limites. Comme l'explique la biographie, elle reste unique. Elle ne chantait pas sur les luttes, elle chantait dans les luttes, avec une rage et une liberté inédites.
Et quels artistes aujourd'hui pourraient faire écho à ce qu'elle a été ?
Bien, en fait, son héritage, il résonne fortement chez des artistes comme Orelson, Camélia Jordana ou Rosset. La force du livre, c'est de nous rendre palpable la modernité de Colette Mani. Ses chansons sur les violences policières, par exemple, « Je veux pas mourir pour quelques grammes », ou sur la condition des immigrés, avec la chanson « Les migrants », ou encore l'émancipation des femmes, avec le titre « Je suis une femme », ou, et c'est novateur, « L'urgence écologique », avec la chanson « Au-delà de la ville ». Donc, tout ça, c'est d'une actualité brûlante. Mmh. Écouter Mani aujourd'hui, comme l'écrit Perrine Magny-Lecoye, c'est constater que les combats des années 70 ne sont pas clos. Et, de plus, puiser une énergie brute pour les poursuivre.
Oui, je crois que quand on écoute d'ailleurs Vietnam 67, on est dedans, quoi. C'est pas dépassé. Quand on a d'autres chanteurs, chanteuses de cette époque qui sont peut-être un peu plus dépassés. Et en quoi ces combats résonnent aujourd'hui, là, avec les grands enjeux de nos jours ?
Finalement, avec une préscience troublante, ces textes pourraient être écrits aujourd'hui, notamment ce qu'elle a pu chanter sur l'écologie, qui à l'époque n'était pas du tout la mode. Alors, le livre nous amène à ce constat frappant. Elle avait déjà identifié les grands combats structurels de notre époque. Son œuvre ne doit pas être une archive, ça doit être un appel.
Alors, il y a peut-être un point qui est peut-être un peu lourd dans le livre, même si c'est un livre très intéressant.
Eh bien, on pourrait trouver, et j'ai trouvé, peut-être que c'est personnel, que les aspects administratifs et juridiques étaient un peu trop détaillés.
Bah, c'est parce que tu n'es pas juriste.
Voilà, c'est ça. Mais, ces aspects soulignent aussi le sérieux de sa recherche. Et on peut dire, pour terminer, que ce livre nous apporte bien plus qu'un hommage, c'est un acte de justice. Il nous oblige à nous demander, comme le souligne si bien la biographie, quels sont aujourd'hui les messages qu'on refuse encore d'entendre.
On rappelle l'auteur, Perrine Magny-Lecoye. Le titre, Colette Mani, remettre le western à l'endroit, donc accompagné, comme l'a dit Elisabeth, d'un CD inédit à un concert de 88. Et ce sont les éditions Les Fondeurs de Briques qui l'ont publié, là, cette année. C'est du tout frais. Je suis passé, comme je le fais d'habitude avant l'émission, à Publico, la librairie de la Fédération anarchiste, où on m'a dit qu'on avait reçu des exemplaires de ce livre. Donc vraiment, je vous invite à l'acquérir. C'est un livre tout à fait intéressant, n'est-ce pas, Elisabeth ?
Tout à fait.
Bon. Terminons cette partie par un texte militant, un roman social, que Fred va nous présenter, et nous retrouverons encore John Baez après son intervention, l'intervention de Fred, pour la chanson sur Joe Hill. Vous allez comprendre. À toi, Fred.
Merci, Francis. Eh bien, je vais vous présenter cette émission, un livre qui s'appelle, le titre, « Bientôt faire éclater la Terre » de Karl Marlantes. Je ne sais pas si le S se prononce ou si c'est un nom, enfin disons un S muet. Bon, cela dit, pour les références, vous avez le S. Comme ça, vous saurez de qui il s'agit. Alors, avec ce livre, de quoi s'agit-il ? Eh bien, c'est un roman social assez gros, 1100 pages environ. Certes, long, mais on peut vraiment bien rentrer dans cette longue histoire qui se déroule entre environ 1893 à 1932. 39 ans de vie, de lutte, de différentes personnes. J'en ai déduit que ce roman s'inspire en partie de la vie des grands-parents de Karl Marlantès. Comme j'ai pensé l'entrevoir dans les remerciements dans le livre, vous verrez. Alors, sans m'égarer, oui, de quoi s'agit-il ? Au début, nous partons de la Finlande en 1893. La Finlande faisait partie alors de l'Empire du Tsar. Beaucoup de choses se mettent en place dans ce premier chapitre. Apparaissent des personnages que l'on suivra pendant le roman, puis certains disparaissent tragiquement dans les mains de l'armée, dans ce même premier chapitre. Mais ils ont une importance quand même pour le déroulement et le fil conducteur. D'autres apparaîtront pour leur première fois dans les chapitres suivants, mêlant fiction, effets et ambiance historique. Ce roman nous emporte dans sa lecture. Cette fresque, cette grande et longue fresque, nous fait presque toucher du doigt la condition de vie, la dure condition de vie même, devrais-je dire, l'âpreté de l'existence des migrants et migrantes aux USA. Pour la plupart scandinaves dans ce roman, scandinaves, mais pas que. On est dans l'extrême nord-ouest des USA, une région riche en arbres et donc en bûcherons et scieries. Des parcelles de coupe aux conditions de travail effroyables, mortelles, des patrons comme on n'en veut pas. Des campements boueux, puants, des cabanes, des tentes pour seul logis, des salaires bas, très bas. On travaille, sauf le dimanche, et on se retrouve le samedi soir pour danser dans des salles improvisées. L'alcool, la danse, parfois des bagarres. Et une femme est là. Elle emporte avec elle une souffrance, un deuil impossible, une culpabilité et des convictions politiques. Elle est révoltée et révolutionnaire. Elle connaîtra Joël ? Oui, vous le lirez. Oui, elle le connaîtra. Participera-t-elle à l'essor de l'IWW, syndicat révolutionnaire ? Sera-t-elle Wobblies ? Oui, elle participera en tant que Wobblies à l'essor de l'IWW. Et encore, oui, il y a de nombreuses femmes syndicalistes à cette époque-là. Elle se bat, met toute son énergie pour faire valoir les droits de toutes et tous. La lutte pour elle et les autres est dure, très dure. On y échange des coups de manche, de hache. On se tire dessus. On se fait mettre en prison. Et pourtant, il faut faire face à tout ce que la vie apporte, aussi bien dans les luttes et dans son intimité. En effet, cette femme est, disons, le personnage central de ce roman. Ce roman n'est pas exempt d'histoire d'amour, de séparation. Il y a des salauds, des gens comme ci, comme ça, et des gens bien, comme dans la vraie vie. Ce roman captive, émeut, immerge, un livre que l'on a du mal à lâcher quand la dernière page arrive. Alors je vais vous donner les références de ce bon roman. Faire bientôt éclater la terre de Karl Marlantès. Chez Livre de Poche. Alors, il n'est pas sur les tables de ou dans les rayons de Publico, mais n'hésitez pas à le commander directement au comptoir ou par mail si vous désirez lire ce livre. Passons maintenant à la musique.
I dreamed I saw Joe Hill last night, alive as you. Never died, said he. I never died, said he. The copper bosses killed you, Joe. They shot you, Joe, says I. Takes more than guns to kill a man, says Joe. I didn't die, says Joe. and smiling with his eyes, says Joe, what they can never kill, went on to organize, went on to organize. From San Diego up to it's there you find Joe Hill. It's there you find Joe Hill. I dreamed I saw Joe Hill last night, alive as you or me. Says I, but Joe, you're 10 years dead. I never died, said he. I never died, said he.
Entrons désormais dans l'histoire et allons en Méditerranée. Nous allons avoir quelques livres, mais c'est Marie qui nous montre le chemin avec un très bel ouvrage regroupant des écrits de l'historien Fernand Braudel. Comme à l'accoutumée, puisque Marie a cours au moment de notre émission, on l'a enregistré et Frédéric, on lui donne la parole.
Voilà. Oui, donc nous avons aujourd'hui un ouvrage, un très bel ouvrage, Les écrits de Fernand Braudel, donc un condensé de 3 volets qui s'intitule « Amour de la Méditerranée, les ambitions de l'histoire et l'histoire au quotidien », donc par l'historien français de l'École des Annales, Fernand Braudel. Donc, c'est un ouvrage qui est paru en août 2025 aux éditions Les Belles Lettres. L'édition de cet ouvrage est établie et présentée par l'historienne Roselyne de Ayala et Paul Braudel, qui était son épouse. Il a été préfacé par Maurice Aymar, qui est un universitaire et directeur d'études à l'EHESS. Donc ce très beau livre a la couverture très explicite, hein, le tableau La Méditerranée peint par Gustave Courbet en 1857, qui illustre bien l'un des grands sujets d'étude de Fernand Braudel, hein, qui a consacré une partie de ses recherches à la Méditerranée, qu'il adulait, car il a vécu durant sa jeunesse en Algérie, en Espagne. Enfin, ça, c'était les premières années de sa carrière, hein, en tant qu'enseignant, et en tant qu'étudiant et enseignant. Donc, ce livre, qui peut paraître impressionnant par son nombre de pages, hein, environ 1300, est en fait un regroupement de 3 ouvrages, hein, écrits par Fernand Braudel et tous 3 publiés antérieurement, hein, entre 1996 et 2001. Donc, à savoir Amour de la Méditerranée, Les ambitions de l'histoire et l'histoire au quotidien. Il est pertinent de préciser qu'il s'agit d'œuvres posthumes, car Fernand Braudel est décédé en 1985 et ses œuvres, recensent des écrits que l'historien a rédigés entre 1927 et 1985, donc une période qui couvre tout son parcours et sa carrière, hein, qui sont d'une grande richesse intellectuelle, puisque Fernand Braudel demeure aujourd'hui une figure emblématique de l'historiographie française et ses textes de référence sont évidemment étudiés à l'université. L'éditeur Bernard de Fallois avertit très justement au début de ce recueil que le projet est difficile d'éditer des écrits qui n'ont eux-mêmes jamais été publiés par l'auteur de son vivant trouve son intérêt dans le fait, je cite, de pouvoir suivre un auteur dans l'évolution de sa pensée, y compris dans ses hésitations, ses maladresses ou ses repentirs. Le premier volet du recueil, donc c'est Autour de la Méditerranée, nous renvoie au sujet de sa thèse débutée en 1927 et qui porte sur Philippe II, l'Espagne et la Méditerranée, ainsi qu'à ses débuts en tant qu'enseignant d'histoire-géographie au lycée de Constantine en Algérie, avec une première partie sur l'Afrique du Nord, une deuxième sur l'Empire espagnol au XVIe siècle, et nous retrouvons d'ailleurs des textes sur l'Espagne de Charles Quint et de Philippe II, beaucoup de textes aussi sur l'Italie, avec notamment le déclin de Venise. Et alors le deuxième volet, lui, les ambitions de l'histoire, aborde un aspect important sur le plan historiographique, car Braudel apporte une définition du temps présent sous les angles de l'événement, du hasard et du social. Hein. Il établit beaucoup de liens, évidemment, entre l'histoire et les sciences sociales. Il nous éclaire aussi sur la position de l'histoire et de l'historien et nous donne sa conception de la géohistoire en insistant sur le fait que la géographie est une science inachevée. Et comme il est donc historien des annales, Fernand Braudel établit beaucoup, comme je le disais, de liens, donc non seulement entre l'histoire et les sciences sociales, donc l'histoire et la sociologie, le temps long et le temps court, il a beaucoup étudié là-dessus, ainsi que sur l'histoire et l'impérialisme aussi. Et dans le troisième volet, l'histoire au quotidien, alors là, il établit effectivement il fait beaucoup d'études en fait sur toutes les années en Amérique latine, les années brésiliennes, hein, qui étaient très très importantes aussi dans sa vie. Et puis, il établit aussi beaucoup de liens entre l'histoire et le capitalisme aussi. C'était un grand sujet d'étude. Voilà, donc c'est un très très gros condensé, mais avec des thèmes très très intéressants, d'autant plus que, voilà, comme je le rappelais, lui-même n'a pas publié ses textes. Hein. C'est ça qui est très 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 intéressant. Hein. C'est vraiment de voir la façon dont les gens en fait qui ont édité ce livre ont travaillé pour permettre justement de faire découvrir l'évolution d'un historien dans sa pensée, dans son travail, dans sa méthodologie. Et ça, donc c'est pour cela que cet ouvrage est majeur, notamment pour les gens qui s'intéressent à l'historiographie, à l'histoire en général, aux historiens.
Je crois aussi que ça doit se lire assez facilement.
Oui, effectivement.
C'est le style Braudel. Aisément.
Oui, tout à fait. On a l'impression que c'est un peu comme des récits, en fait. Oui, il y a beaucoup de récits, notamment lorsqu'il évoque l'Amérique latine, les années brésiliennes, effectivement. Oui, c'est un peu comme un récit de voyage, effectivement, le style est comme ça, oui.
Ouais. Alors, donc, on rappelle, Fernand Braudel,
écrit autour de la Méditerranée, les ambitions de l'histoire et l'histoire au quotidien. Donc, les trois volets.
Et c'est publié.
Donc, aux éditions Les Belles Lettres, en août 2025. Voilà.
À lire.
À lire, bien évidemment.
Mais, alors, oui, c'est à lire. Et en plus, j'insiste là-dessus, j'ai interrompu Marie, parce que ce qui est fascinant dans Braudel, c'est qu'on le lit très aisément comme une histoire. Vous avez des historiens, c'est à mourir d'ennui. Vous avez des juristes qui font dormir tout le monde. Regardez Elisabeth, qui n'en supportait plus. Et je la comprends, oui, je suis tout à fait d'accord, l'étant moi-même. Bon, mais Braudel, c'est vraiment une lecture très agréable, et le volume ne doit pas nous inquiéter. Mais il y a aussi une magie en Méditerranée. Cette magie, c'est celle du poète avec un grand P. Et évidemment, le poète, c'est Homère. C'est ainsi que les Grecs nomment Homère. Ils vont même pas dire c'est Homère. Non, c'est le poète. Bah oui, qui ne connaît pas Ulysse, même sous le nom de personne. Vous savez, c'est celui-là qui donna au cyclope Polyphème ce nom. Pour lui échapper. Un oubli de votre part. Allez, relisez l'Iliade et l'Odyssée d'un certain Homère, justement. Ou mieux, découvrez le monde d'Ulysse grâce au livre éponyme de Finlay, Moses Finlay, paru aux éditions Les Belles Lettres. En couverture, un bateau, le mât ramené au plancher, des rameurs qui tentent de lutter contre les éléments, une mer déchaînée, car Poséidon n'est pas très content. N'oubliez pas que il aimait beaucoup Polyphème. Bon, et un homme, sans doute Ulysse, tient la barre. Par cet ouvrage, Finlay tente de nous éclairer sur les mœurs, la vie au temps de la construction de ces poèmes enchanteurs dans cette Grèce antique. Qui est-il ? Qui est-il, Finlay ? Progressiste, marqué par la montée du nazisme et la guerre d'Espagne, il enseigne un temps à l'université dans le New Jersey. Il est victime de la répression maccartiste, comme quoi chez eux, c'est aux États-Unis, c'est une vraie valeur que d'être réactionnaire. Donc il est obligé de partir et il s'installe à Cambridge pour entamer une carrière de professeur d'histoire ancienne. Pour lui, je cite, « Le monde d'Ulysse constitue dans sa totalité un moment unique de l'histoire grecque et notre information à son égard provient de deux poèmes, l'Iliade et l'Odyssée. C'est un monde que j'ai essayé de reconstruire », nous dit-il. Et Homère, de tout temps, le titre de premier génie poétique lui a appartenu. Aucun poète, aucune personnalité littéraire n'a occupé dans la vie de son peuple une place comparable. Le poète le plus largement cité, pourtant il est probable que ses poèmes furent l'œuvre de deux poètes, écrits sur une île de la mer Égée, voire en Turquie, entre 750 et 650 avant notre ère, ou plus loin, aux temps obscurs du 10e-9e siècle. Ces Grecs à l'époque s'appelaient les Argiens, les Danains, rappelez-vous, Timéo Danaos et Dona Ferrantes, je crains les Grecs, même quand ils font des cadeaux. Et ce, jusque dans l'Énéide de Virgile. Et quelle langue ? Un ensemble de dialectes compréhensibles aussi bien par des gens incultes que par l'élite cultivée. Allons chercher l'écriture dans le linéaire B. Oh, je vous dis pas tout, vous lirez, mais ça se lit là aussi très aisément. Les langues circulent, les écritures aussi. Et Brodel, justement, n'est pas loin dans sa vision de la Méditerranée. Cette mer, dit-il, dont les rivages rapprochent les peuples, parfois, souvent, avec souffrance. Restons aussi respectueux devant les textes disparus à cause de la folie des hommes et des événements naturels. On garde l'Iliade et l'Odyssée, mais on en a perdu certainement des centaines, sinon des milliers d'autres. Homère n'était pas, c'est toujours Mosley qui parle, n'était pas simplement un poète, il était un conteur de mythes et de légendes. Relisez les pages consacrées aux luttes entre les dieux et les hommes. Les pages consacrées à la réalité du mythe sont passionnantes, tout comme celles relatives aux héros. Et Finlay nous livre aussi une analyse de la structure du texte, du choix des mots pour atteindre la magie de la poésie. Là aussi, à vous de lire. Il établit le lien avec les lieux, Ithaque, Mycène, Troie. À la lecture des deux poèmes, il explique la vie en société, la répartition des richesses et du travail, le commerce des dons. Il démontre que l'autarcie était impossible, car le métal était objet d'échange. Eh oui, donc ça circulait. Et pénétrons aussi dans les prémices du droit, le code moral, contre le vol par exemple, la condition d'homme libre. Songeons à Aristote. Ce qui fait la condition d'un homme libre, c'est qu'il ne vit sous la contrainte d'autrui. Au moins à l'époque, on savait écrire simple et clair. Finlay expose aussi l'organisation de l'agora, la place publique, les débats, le droit coutumier, la thémis. Bon, j'insiste sur la lisibilité du texte, et même si nous ne sommes pas des experts de l'Antiquité, en tout cas moi je ne suis pas, nous sommes portés par le style, les explications, les références, et n'oublions pas aussi que ces poèmes sont des œuvres d'art et pas des procès-verbaux. Rêvons sur la découverte de la ville de Troie. Oui, mais laquelle? Vous savez, il y a superposition. Et puis, citons une dernière fois, Finlay. Dans les siècles postérieurs, ce miracle qu'était la Grèce se déploya. Homère avait transformé les dieux en créatures humaines. L'homme n'avait plus qu'à se connaître lui-même. Socrate, Héraclite d'Éphèse, Porphyre de Tyr, Platon, le sanctuaire de Delphes nous appellent à cette tâche infinie et donc jamais achevée. Moses Finlay, Le monde d'Ulysse, aux éditions Les Belles Lettres, en 2025, c'est là aussi tout récent. L'histoire, la poésie, il nous manque la peinture et la musique. Alors avant de parler de Raphaël, écoutons un extrait de Canticum Canticorum de Palestrina. Alors Agnès, ce Raphaël avec le secret d'une dame apparemment, alors dis-nous tout.
De la Fornarina. Mmh. C'est écrit par Émilie Férignot aux éditions Atelier Henri Dougier. Amélie Férignot est une historienne de l'art, spécialiste de la Renaissance italienne. Ses travaux portent sur les commandes d'Agostino Chigi et sur l'identification d'une série de portraits réalisés par Raphaël, dont notamment la Fornarina. Et en effet, dans le roman du secret de la Fornarina, nous sommes plongés avec une finesse érudite dans la Rome du début du XVIe siècle, où l'art, le pouvoir et les passions se mêlent étroitement. À travers le regard de la mystérieuse Fornarina, dite muse et amante de Raphaël, se dessine le portrait de cette société très codifiée. L'auteur nous fait découvrir l'incroyable richesse de certaines demeures, telles celles d'Agostini Gigli, ce banquier, trésorier du pape Jules II. C'est un personnage puissant, véritable mécène, qui fit construire un somptueux palais à la Farnesina que l'on découvre dans ce récit comme un lieu de pouvoir et d'art. Des artistes s'y croisent, dont Raphaël, ami de Gigli. Ce lien amical, presque fraternel, souligne l'importance des cercles de mécénat dans l'essor de la Renaissance italienne. Le roman met en lumière les normes vestimentaires de l'époque qui distinguent les femmes mariables des courtisanes. Le port des cheveux détachés, l'usage de certaines étoffes ou de bijoux sont autant de signes visibles de statut de femme. Or, la façon dont est peinte la mystérieuse Fornarina laisse beaucoup d'ambiguïté malgré la place centrale qu'elle occupe dans ce roman. Si Amélie Ferrigno évoque néanmoins la possible identité de cette femme, le mystère subsiste et ce tableau reste un acte de rébellion contre les normes de l'époque, en peignant une femme au regard frontal, sa main sur le cœur, la nudité de son buste à peine voilé. Raphaël défie bien les conventions sociales et artistiques de son temps. Les jeunes femmes destinées au mariage se devaient d'être effacées et voilées, tandis que les courtisanes assumaient la liberté à laquelle elles s'exposaient. Les attributs de mode étaient des marqueurs très importants de l'époque. Une boucle de cheveux, une étoffe précieuse, un regard franc. Mais l'audace a payé. Le roman glisse peu à peu vers une ombre plus tragique. Raphaël et Agostino mourront quelques jours plus tard de violentes fièvres. Une autre personne aussi. Le modèle présumé peut-être de ce tableau, même pas achevé à l'époque du décès des uns et des autres, laissant le mystère entier à cette mystérieuse Fornarina. Je vous laisse découvrir l'histoire. Donc, le secret de la Fornarina, selon Raphaël, écrit par Émilie Ferrigno, aux éditions Atelier Henri Dougier.
Et c'est une édition de l'année. Merci Agnès. Et de Rome à Venise, il n'y a qu'un pas, surtout par la radio. Et je voudrais vous parler d'un livre qui va nous détendre. D'ailleurs, Dominique en apprécie beaucoup l'auteur, moi aussi, Donna Leon. Et voyons cette dernière production que je pourrais intituler « Derrière les façades ». Donna Leon anime le monde du polar avec les enquêtes du commissaire Brunetti au gré des ruelles, des canaux de Venise, relatées en 36 ouvrages, tous publiés aux éditions Calman Levy. Chacun permet d'évoquer un quartier, une population, des mœurs spécifiques à cette ville. Elle dénonce aussi des scandales depuis la corruption, le chantage, le trafic d'influence. Je songe notamment à celui des déchets industriels dangereux. Plutôt que de nous présenter un essai sur la question, elle s'appuie sur ce commissaire aux relations étendues, grâce à son épouse Paola. Et dans la récente publication de Donna Leon, L'épreuve du feu, nous retrouvons les personnages des autres enquêtes, la signorina Eretra, si habile pour pénétrer les sites confidentiels, le vice-questeur Pata, toujours attentif à sa carrière et d'une prudence de loup à l'égard des autorités, les parents de Paola, de grande noblesse vénitienne. Et j'apprécie aussi les histoires dans l'histoire. C'est la richesse d'un roman, somme toute, très plaisant. La vie de famille de Brunetti, le talent intellectuel de son épouse dans l'analyse des textes classiques comme l'Énéide, voyez, on y revient toujours, mais qui sait aussi nous allécher de plats aux noms évocateur, tels la Galina, Pharaona, Rimpieta, les promenades le long des canaux, des cales, et sans oublier les campi, constituent une invitation à découvrir cette ville fascinante. Mais l'épreuve du feu, ce sont aussi des bagarres de bandes d'adolescents délaissés par leurs parents, souvent de classe dite supérieure. On y découvre la violence, les appels sur les réseaux sociaux, les cambriolages chez les particuliers violentés, les misères sociales surnagent. Et c'est à l'occasion d'une de ces violences que Guido Brunetti et sa collègue Claudia Grifoni vont croiser un ex-avocat véreux, Maître S. Chantage, d'anciens militaires affectés en Irak, impliqués dans des trafics d'œuvres d'art, de livres anciens. Soyons clairs, il s'agit de pillages de musées, de bibliothèques irakiennes. Certains deviendront des héros de pacotille, mais il faut préserver l'honneur de l'armée grâce aux manœuvres des grands. Ben vous découvrirez comment. Et surtout, je ne vous livre pas les motifs du titre. Je vous indique simplement qu'il y a plusieurs épreuves du feu dans ce livre. Un moment de lecture plaisant, malgré la gravité des enjeux, qui nous invite, ben ma foi aussi, à la réflexion. Donna Leon, l'épreuve du feu, chez Kalman Levy, 2025. Là aussi, ça vient de sortir. Et puis, restons en Italie, tiens. Encore un café ? Un espresso ? Quoi de plus banal qu'un café ? Au Troquet, sur le Zing, vite fait, ou le matin un peu tristounet avant de retrouver la promiscuité des transports collectifs ? Ce breuvage, autrefois aperçu comme nectar, n'est plus considéré. Deux passionnés du café, Christophe Servel et Pierre de Chantérac, nous proposent de retrouver le goût et le plaisir du café. Selon leur préfacière, Mathilde Laurent, déguster, c'est goûter la vie. Lecteur invétéré, j'aime le café. Et après lecture de ce livre, Les goûts du café, cultiver ses sens, publié aux éditions Apogée, je crois que je deviens vigilant sur mes choix. Ah, comment ? Les auteurs établissent un pont entre le cuisinier, le vigneron, les acteurs de la chaîne de la production du café. Il n'y a pas que la marque. Il faut compter sur les planteurs, les récoltants, les transporteurs, les torréfacteurs, les vendeurs, chacun apportant sa touche pour un produit de qualité ou pas. Ils vivent café, pensent café et dessinent une filière alternative. Un terroir singulier, une culture collective, rien à voir avec les cafés Starbucks et autres instantanés Nescafé. Derrière ce livre qui est plaisant, il y a aussi une analyse, politique, vous allez voir. Le café trouve ses racines sur les bords de la mer Rouge, au Yémen, c'est le mocha. Avec la colonisation, il est exporté aux Antilles, et désormais tout le monde connaît des pays à la quasi-monoculture caféière pour le plus grand danger des populations, des territoires, de l'économie locale. Trop souvent, le transport et le conditionnement gâchent la matière première. Et les auteurs militent pour une désindustrialisation de la production à l'origine, pour une déstandardisation du goût et pour l'instauration d'une relation de confiance entre les torréfacteurs et leurs clients, fondée sur la traçabilité et la vérifiabilité et non plus sur le mensonge ou la conformité au label. Bon, ma foi, c'est un beau programme. La présentation de la chaîne de production révèle sans grande surprise que les grandes firmes sont évidemment les gagnants de ce dispositif. Et les perdants ? Bah évidemment les producteurs. Je cite, « victimes d'un système qui entraîne une misère économique, morale, sociale, sanitaire, une destruction des écosystèmes. Ce sont aussi, et bien sûr, in fine, les consommateurs. » Alors, les cafés dits de spécialité émergent sur le marché. J'ai vu encore récemment un article dans Le Monde, qui n'est pas libertaire, à cet effet. Comprendre, je cite encore les auteurs, comprendre le café commence par une connexion au territoire, au terroir, ces hautes terres des tropiques. Partant donc à la découverte de ces terroirs, les facteurs climatiques et géographiques, les altitudes, et bien sûr les espèces, les variétés dont les noms donnent à rêver. Sadama, Arar, Gaïcha Lupanama, Jima. Nous allons de la récolte à la fermentation jusqu'à l'arrivée dans notre tasse. Et là, Pierre de Chantérac prend le relais pour nous initier à l'art de la dégustation, comme pour les vins. Tout est finesse, sensation, échange. Notre goût nous raconte, explique-t-il. Et les défauts d'un café, nous ressentons, bah oui, aisément, hein, nous ressentons ces cafés terreux, moisis, fermentés. Les qualités dépendent de chacun de nous et de l'usage des mots pour les décrire. Un choix de langage, voilà qui nous convient bien dans une émission consacrée au livre. Et les auteurs iront jusqu'à la forme de la tasse et de sa texture. Tout est délicatesse. Un petit café ? Oui, mais lequel ? À vous de choisir. Je rappelle, Christophe Servelle, Pierre de Chantérac, Les goûts du café, cultiver ses sens, aux éditions L'Apogée. Et puis, on va mettre une petite chanson un peu rigolote sur le café. Frédéric, on y va ?
Pour bien commencer ma petite journée et me réveiller, moi j'ai pris un café, un arabica, noir et bien corsé. J'enfile ma parka, ça y est, je peux y aller.
Où est-ce que tu vas ?
Me crie mon aimé.
Prenons un kawa, je viens de m'élever.
Et tant en avance, et un peu forcé, je change de sens et je reprends un café. À 8h moins le quart, faut bien avouer, les bureaux sont vides, on pourrait s'ennuyer. Mais je reste calme, je sais m'adapter. Le temps qu'ils arrivent, j'ai le temps pour un café. La journée s'emballe, tout le monde peut bosser, au moins jusqu'à l'heure de la pause café. Ma secrétaire entre
fort comme vous l'aimez.
Ah mince, je viens d'en prendre un, enfin bon maintenant qu'il est fait. Un repas d'affaires, tout près du sentier. Il fait un temps super, mais je me sens stressé. Mes collègues se marrent.
Détends-toi René, prends un bon cigare
et un petit café.
Une fois fini, mes collègues crevés appellent un taxi. Oh mais moi j'ai envie de sauter. Oh je fais tout Paris, oh et puis je vois un troquet. Oh je commande un déca, mais un café inné.
Au bureau, ma secrétaire me fait.
Vous êtes un peu en retard, je me suis inquiété.
Je la jette par la fenêtre, elle l'avait bien cherché. De toute façon, il faut que je rentre, mais avant, un café.
Attends dans le métro, je me fais agresser. Une petite vieille me dit:
vous avez l'air, s'il vous plaît.
Je lui casse la tête et je la pousse sur le quai. Je file à la maison, puis je me sers. Devinez.
Un petit dernier pour la route, puisque nous avons quelques minutes avec la musique du film, musique de Georges Vamparis, que nous écouterons à la fin de cette présentation. Alors, nous voici partis pour une promenade dans les rues de Paris. Ce Paris prolo, gouailleur, la collection Paris perdu des éditions L'Échappée s'enrichit d'un nouveau titre, Rue des Prairies de René Lefebvre. Nous sommes dans le 20e arrondissement, la rue existe, vers le Père-Lachaise. Aujourd'hui, vous aurez du mal à découvrir les dites prairies, hein, c'est sûr. Un temps du Paris rural, bien antérieur à celui qu'évoque René Lefebvre. Dans sa préface, Édouard Jacquemous nous résume l'intrigue. Je cite. En 1955, c'est sur elle que René Lefebvre jette son dévolu pour composer le décor du drame familial qui se noue entre le contremaître, Henri Neveu, et son épouse, Yvonne, après la naissance d'un enfant adultérin. À la découverte de celui-ci, le mari trompé voûte le dos par dépit, muselant sa hargne et étouffant son chagrin. Sa femme, elle-même abusée par un Casanova en carton-pâte, ne se pardonne pas la faillite de son couple et se fane du jour au lendemain. Seul, l'enfant adultérin, Fernand, tente de s'en sortir. Serions-nous dans un roman à mouchoir ? Oh ! L'histoire va d'autant retenir l'attention qu'elle sera portée à l'écran en 1959 avec Jean Gabin dans le rôle principal et des dialogues de Michel Audiard. Il ne s'agit pas que de cela. Je ne vous cache pas que je ne vous parlerai pas de ce livre s'il n'y avait que cela. Mais il est riche d'autres qualités. René Lefebvre a exercé 1000 métiers pour aboutir à celui d'homme de théâtre et de cinéma. Ainsi, son récit est rythmé comme un scénario. Les dialogues mêlent le ton, les mots, la gouaille parigote. Je vous passe les moments où Henri partit plusieurs mois au Maroc pour travailler sur un chantier à Prenquy-les-Pères. Il compte les mois, les copains aussi. Bon, drôle d'ambiance. L'empathie se manifeste, mais personne n'est dupe. Il voit l'enfant, un lien se brise dans le couple, presque banal. Mais les autres qualités dont j'ai parlé, eh bien, des scènes que René Lefebvre a dû vivre par ses métiers, le monde de la boxe, la violence, la chute du fils aîné qui finira à Fresnes pour des affaires de mœurs. Et la fille d'Henri et Yvonne, elle se produit dans un minable music hall de Montmartre. Elle rencontrera un danseur professionnel et partira pour l'Amérique du Sud. Les conditions de logement de cette pauvre famille rappellent que dans les années 50, on vivait sinistrement dans des mansardes et autres logements insalubres. Ce livre pourrait être constitué de plusieurs nouvelles, d'ailleurs. Après l'éclatement du couple, le fils, la fille, nous voilà sur les boulevards. Henri rencontre un haltérophile, il se rend à la foire du trône, découvre les arrières des baraques foraines, il disjoncte comme toute sa famille et lui tombe dans l'alcoolisme au travail, encore un autre thème de nouvelle, presque une approche sociologique sur la manière dont la question a été traitée à cette époque. En parlant d'alcoolisme et d'addiction, je vous invite à vous reporter au numéro de septembre du Monde Libertaire qui est consacré, justement, dont le dossier est consacré à l'alcoolisme. Alors, cette affaire, dit l'auteur, consacrait la faillite familiale et révolue en trois échéances. Mais est-ce la fin ? La fin, je vous laisse la découvrir en lisant ce roman d'atmosphère parisienne des années 50. Et je vous lis l'explicite. Quand il montra ses yeux qu'avait lavé l'orage, Fernand, le fils adultérin, y vit grandir la lueur venue de loin. Le mauvais reflet était parti pour faire place à une couleur nette du bleu d'un ciel d'été dévoilé par le vent. Je vous laisse découvrir ce qui va se passer. Je rappelle simplement René Lefebvre, Rue des Prairies, aux éditions L'Échappée, en 2025. La musique du film Rue des Prairies, Fred, c'est parti.
Thank you.
comme nous avons le temps, et c'est rare dans cette émission, eh bien, nous allons redonner la parole à Elisabeth qui va nous donner lecture de quelques passages du livre qu'elle nous a présenté tout à l'heure, la biographie de Colette Magny. Alors, Elisabeth, que souhaitais-tu nous lire ?
Eh bien, j'ai parlé d'écologie tout à l'heure. Et en fait, je vous ai dit que c'était une personne novatrice en la matière. Et donc, j'ai le plaisir de vous lire un passage du livre de Perrine Magny.
Magny. Oui.
Sur justement ce thème de l'écologie. Alors, elle nous dit... L'écologie, c'est une ligne de force qui traverse son œuvre et sous-tend la dénonciation des maltraitances qui sont infligées à la Terre bien avant l'heure de désastre écologique auquel nous sommes aujourd'hui confrontés. Ensuite, elle nous donne un extrait justement d'une chanson de Colette Magny que je vais vous lire. Je ne la chanterai pas. Les multinationales déboisent l'Amazonie. Le désert avance en Afrique, les forêts européennes dépérissent. Atteintes d'une maladie de langueur, tant qu'il y aura mort d'arbres, le poumon de la terre sera malade.
C'est assez étonnant. On a l'impression de lire un texte qui nous décrit la situation d'aujourd'hui.
Oui, c'est tout à fait ça, parce que, comme je disais tout à l'heure, en fait, les combats d'hier... ne sont pas résolus, on est toujours dans les mêmes combats, mais on les entend.
Ouais, voilà. Tout à fait. Un autre.
Alors, en fait, je vais vous lire un petit extrait sur les enfants du monde qui sont bousillés. Alors, on a vu que Colette Magny évoquait souvent l'enfance. Et bien sûr, pas l'enfance bien heureuse, mais l'enfance victime d'exploitation et de violence. Donc, je vais vous lire un extrait, là encore, d'une chanson qui montre cette violence envers les enfants. Partout dans le monde, enfants esclaves, corvéables à merci, enfants taupes dans les mines de Colombie. En Thaïlande, des usines à sueur et des combats de gosses semblables aux combats de coqs. L'un des deux enfants en mourra, Kaketa. Dessiné par les enfants de Palestine, les oiseaux ont une drôle d'allure. Serait-ce des avions meurtriers ? Kaketa. On peut voir aussi un autre extrait, toujours sur ce thème-là. Quand sont venus les bombardiers ? Mon copain près de moi est tombé. Quand sont venus les bombardiers, mon frère, ventre ouvert, ses tripes dans mes mains, j'ai retenu, mais j'ai pas pu le sauver. Hélas, il aborde le Vietnam.
On a l'impression d'écouter Rimbaud,
oui,
le dormeur du bal.
Oui, tout à fait. Ouais. D'ailleurs, elle a été admirative, on va dire, de Rimbaud. Donc, c'est pas forcément étonnant.
D'accord. Donc, tout ça étant extrait du livre que nous avons présenté tout à l'heure. Les références...
Colette Magny. Remettre le western à l'endroit.
Voilà. Et c'est édité...
par les fondeurs de briques.
Voilà. Et l'auteur, c'est...
Perrine Magny-Lecoir.
Voilà. Très bien. Merci. Allez, un petit... C'est vraiment le petit dernier, celui-là. Hein, parce que Marie nous a parlé tout à l'heure de Courbet. J'ai dit, allez, on va parler un peu de Courbet, quand même. D'abord, c'est un communard, donc on l'aime bien dans le groupe Communes de Paris. Alors, vous savez certainement que Gustave Courbet est originaire d'Ornans, en Franche-Comté, plus précisément dans le Jura. Et combien fut-il méprisé, rejeté par son village après sa participation à la Commune de Paris. Mais aujourd'hui, le succès aidant, tout est Courbet dans cette commune. Les rues, les places, les restaurants. Tant mieux, il y a même un pôle Courbet, regroupant la ferme de son enfance, son atelier et un musée accueillant une exposition permanente et une autre temporaire. C'est celle-ci, et surtout de son catalogue, dont je voudrais vous entretenir. Son thème, paysage de marche, sur les traces de Rousseau, Courbet, Renoir, Cézanne et les autres. Elle se déroule jusqu'au 19 octobre 2025. Allez-y, la région est un gigantesque tableau de Courbet, sinon découvrez le catalogue. Courbet, c'est un grand marcheur. Il va vers la nature, dans les forêts, les vallons, les sources. Lisons un extrait. C'est lui qui parle. « Pour peindre un paysage, il faut le connaître. Moi, je connais mon pays, je le peins. Ces sous-bois, c'est chez moi. Cette rivière, c'est la Loue. Celle-ci, le Lison. Ces rochers, c'est ceux d'Ornans et Puy Noir. » Allez-y voir, vous reconnaîtrez tous mes tableaux. Courbet est un maître de la peinture en plein air. Il peint en arpentant. Il apprend à marcher avec son bâton. Vous le verrez, ce bâton, sans doute avec émotion si vous êtes marcheur, dans le musée et reproduit en photo dans le catalogue. C'est un défi initiatique que cette marche. Pour l'accompagner, de nombreux peintres et écrivains sont mobilisés. Un cheminement, une errance. Cheminons dans un paysage de raison organisé avec Sisley, ou errons à la hauteur de l'animal. Le sauvage nous intéresse, tel Théodore Rousseau à Barbizon. Nous avons le choix, c'est dans le catalogue, c'était dans l'expo. La marche rend libre. Elle cultive autant le goût que la vie. On se perd dans le temps, dans l'immensité, et je relève particulièrement le magnifique tableau « Les grandes ombres », paysage de l'Ardenne, de Léon Frédéric. Et oui, d'autres peintres sont convoqués. Goûtons aussi la proximité du Paris urbain, de la banlieue et de la campagne. Songeons à Corot, à Ville d'Avray. Rousseau herborisant sur les flancs de Belleville. On ne voit pas trop ce qu'il pourrait herboriser aujourd'hui sur les flancs de Belleville, à Paris. La photographie est mobilisée avec Gênes, Agen, les fortifications, la zone, les quartiers menacés de destruction. Les peintres en extérieur rencontrent le peuple, le forestier, les paysans. Le petit casseur de pierre, cet enfant, expression la plus complète de la misère, selon Courbet, qui ne pouvait être que du côté du peuple de la commune avec de tels propos. Sur les chemins, on marche sur l'histoire. On pénètre aussi dans l'inconnu, la passion de Courbet pour les grottes, les sources, une forme de paganisme. Il y a une initiation dans la marche. Marcher, c'est vivre et sentir que l'on vit. La marche nous guide vers l'inconnu. Une partie de l'exposition est consacrée aussi à la montagne. Et puis la marche, c'est apprécier la lenteur, le goût du paysage. Les écrivains sont nombreux, vous les retrouverez, notamment Julien Gracq. Et je termine par la merveilleuse rencontre où « Bonjour, Monsieur Courbet », un homme qui marche, la barbe en avant, son sac, son bâton, le chapeau à la main, saluant les hommes venant à sa rencontre. Le geste éternel du marcheur. Paysage de marche, catalogue de l'exposition au musée Courbet d'Ornans, édition du musée Courbet en 2025. Et bien voilà, mes chers amis, des livres, on vous en a présenté beaucoup, on vous en présentera d'autres. C'est le jeu d'Au fil des pages sur Radio Libertaire. C'est fini pour aujourd'hui dans notre émission. Merci pour votre écoute, votre fidélité. On se retrouve le mercredi 8 octobre 2025 et nous aurons le grand plaisir d'accueillir Pierre Brance pour parler de son livre « La Grande Fédération, démocratie directe et vie fédérale » publié aux éditions Noir et Rouge. Là aussi, c'est une publication de cet été. D'ici là, bonne lecture. L'équipe d'Au fil des pages sur Radio Libertaire vous souhaite ni Dieu ni maître, un bel idéal de vie. Et nous laissons la place dans quelques minutes à nos amis de Femmes Libres. À bientôt et au plaisir de partager.
le temps des cerises. Entre le jazz et la java, dansez sur moi Lily Marlène, Jimmy Jazz, Malavida. J'en ai vu pousser des rengaines. J'aimais déjà les étrangères quand j'étais un petit enfant. Sarah, Lily, Lola Rastaquer, je chante pour passer le temps. Could you be love?
Could you be love?
Avec Denise, le soleil est beau.
Le soleil est beau.
Le temps des cerises. 19 degrés au chaud, on my radio. Pierrot, mon gosse, mon frangin, mon poteau. Manque de classe with my pince à vélo. Porque te basse comme un petit coquelicot. Daddy was a bank robber. Mon oncle infâme, bricoleur. Allons voir si la rose pull up to the bumper.
Femmes libres.
Femmes qui se libèrent.
Femmes qui prennent la parole.
Femmes qui témoignent.
Femmes qui créent.
Femmes qui se révoltent.
Femmes qui luttent.
C'est Femmes libres
sur Radio Libertaire.
Reconnaissons-nous les femmes. Parlons-nous, regardons-nous. Ensemble, on nous opprime les femmes. Ensemble, le libérons-nous. Levant nos femmes esclaves et brisons nos entraves. Debout, debout, debout.
C'est Femmes libres sur Radio Libertaire.
Bonsoir à toutes et tous. Eh bien, c'est la 31e émission de Femmes libres pour cette année 2025. Émission féministe, anarchiste, pour combattre le patriarcat, le capitalisme, les religions, tous les pouvoirs qui nous oppriment, nous exploitent, nous discriminent. Nous sommes sur Radio Libertaire pour 2 heures d'antenne, donc, de l'émission Femmes libres. Radio Libertaire, c'est la radio sans Dieu, sans maître, sans publicité, la radio de la Fédération anarchiste. Et on a retrouvé Sylvie aux manettes. Bonsoir Sylvie.
Bonsoir Hélène.
Voilà, l'émission c'est tous les mercredis entre 18h30 et 20h30. On peut nous suivre sur notre blog, émission-femmeslibres.blogspot.com. Et ainsi réécouter les émissions, avoir le programme. Mais on peut aussi nous suivre sur Facebook et Miss Cloud. Alors, au programme ce soir, un opus poétique avec Sandrine Malika. Bonsoir Sandrine.
Bonsoir Hélène, bonsoir Sylvie, bonsoir à toutes et tous.
Voilà, et elle nous présentera 2 ouvrages des éditions Le Castor Astral, Frénésie de Stéphanie Vauvor et L'eau du bain de Rim Batal. Ensuite, nous accueillerons Sandrine Goldschmidt et Nadia Ringard pour le festival féministe de documentaire Femmes en résistance à la capitulation qui se tiendra le 27 et 28 septembre au cinéma Jean Villard d'Arcueil. Et après, on aura quelques informations, communiqués et rendez-vous. Donc, on va démarrer avec l'opus poétique et d'abord avec son indicatif.